Bonjour Thomas Schlesser.
Bonjour.
On est avec vous pour parler du chat du jardinier qui est sorti aux éditions Albin Michel et qui s'annonce comme un énorme carton à peu près autant que les yeux de Mona. Je voudrais savoir quel élève vous étiez quand vous étiez à l'école.
Ah, j'étais vraiment le cancre de Jacques Prévert, celui qui dit non avec la tête, oui avec le cœur, oui à ceux qu'il aime, non au professeur. J'étais au collège et au lycée, à chaque fois, le dernier à ne pas redoubler. oui, exactement. J'étais vraiment en fin de peloton. Et donc, j'étais un mauvais élève. Je n'aimais pas l'école, tout simplement. J'aimais bien les copains. J'aimais bien certains profs. Mais je n'aimais pas tellement apprendre. J'ai toujours eu horreur de ce qui était normatif et dogmatique. Et donc, je me suis un peu réveillé, disons vers la seconde, en première. Mais j'ai eu une scolarité qui a été difficile avant ça et qui même a été douloureuse, je dirais.
Et pourquoi vous dédicacez votre livre justement aux mauvais élèves ? On voit bien dans votre livre et dans les yeux de Mona, il était question de ça aussi. Il y a une forme de pédagogie, de transmission douce, finalement, plus avec le cœur et les émotions qu'avec des injonctions.
C'est vrai. Et c'est, je crois, ça vient évidemment de mon expérience personnelle et du fait que, avant de devenir moi-même enseignant universitaire, donc de basculer du côté, on va dire, des bons élèves, je continue à me reconnaître dans les mauvais. Je vais vous le dire autrement. Quand on a été mauvais élève, ça dure toute la vie. En fait, c'est impossible de se départir complètement des sensations, des émotions douloureuses que vous avez pu vivre quand vous étiez au fond de la classe, en sixième, en cinquième, en quatrième. Par exemple, vous voyez, j'étais un élève qui a beaucoup connu les punitions, et les punitions qui en fait ne produisent rien, parce que vous ne pouvez pas rattraper le retard que vous avez pris au moment où vous n'avez pas appris votre leçon. Et en plus, ça vous met encore plus la tête sous l'eau. Donc, les mauvais élèves, tout simplement, je pense à eux. Je me reconnais en eux et je pense à eux. Et j'espère que mes livres sont une manière de leur tendre la main. J'espère que mes livres leur permettent de progresser un peu et de se dire qu'ils peuvent sortir de cette condition-là. Voilà.
Il y a à nouveau dans ce livre-là un principe d'urgence. Le fait que vous mettez le lecteur, comme un des protagonistes de l'histoire, dans une urgence. Dans les yeux de Mona, une petite fille allait perdre la vue, et donc c'est par la beauté des tableaux qu'elle cheminait pendant toute l'histoire. Cette fois-ci, c'est un chat qui est mourant, le chat du fameux jardinier. Et c'est par la poésie, à travers plusieurs saisons aussi, parce qu'il y a un très fort lien à la nature dans ce livre, que vous faites un pont avec la poésie. Quel rapport vous avez avec l'urgence ?
Je vais vous dire une chose, c'est que un peu à la manière de René Char qui a cette injonction « va vers ton risque », moi je suis habité par une urgence de tout vivre. Il y a cette idée au fond qu'il faudrait mourir complètement désespéré. Mourir complètement désespéré, ça ne veut pas dire qu'on est dans le désarroi total à la fin de son existence. Ça veut dire qu'on a tout éprouvé, on a tout expérimenté, et donc il n'y a rien à regretter. Alors je suis très habité par cette motivation-là, même si tout vivre, c'est aussi savoir se montrer parfois pondéré, savoir se montrer raisonnable dans les temps faibles pour réfléchir un peu et repartir. Je crois beaucoup au différentiel dans la vie, temps fort, temps faible, hein, un peu comme dans les matchs de rugby où il faut savoir gérer aussi les temps faibles pour repartir ensuite en conquête. Et donc, même si ça peut paraître un lieu commun, cette urgence de vivre, elle est chez moi un élément cardinal et j'espère un peu l'inspirer à celles et ceux qui me lisent.
Alors il y a non seulement ce principe d'urgence, mais aussi bien sûr de la beauté. Vous avez un rapport à la beauté que vous avez envie de nous faire partager, que vous nous invitez quand même à avoir comme principe de vie.
Ouais, avec quand même cette idée que le beau, comme dit Baudelaire, est toujours bizarre. Donc moi, quand j'évoque le beau ou la beauté, bien évidemment, je n'en ai pas de véritable définition. En fait, j'ai un rapport au beau et à la beauté qui est un rapport assez empirique. Je n'ai pas du tout un rapport philosophique. Toutes les considérations sur la beauté qu'on peut trouver chez les grands penseurs, ça peut m'intéresser, mais je ne me reconnais jamais pleinement dedans, puisque la beauté fonctionne, en tout cas chez moi, plutôt par le biais de l'effraction, de l'étonnement, que par, comment dirais-je, un canon attendu. Et c'est d'ailleurs ça qui est assez magique dans la poésie ou dans la peinture, c'est que c'est toujours des pas de côté, des formes de légère périphérie avec ce que l'on croit être l'horizon attendu qui finissent par produire ces ravissements qu'on appelle beauté, sublime, extase, et voilà.
Alors, il y a dans votre livre, justement, des éléments pour nous amener à considérer la beauté de plusieurs façons, presque, j'ai envie de dire, presque sur mesure. Alors, c'est assez intéressant. Par exemple, vous citez Mallarmé, parce que dans ce livre, c'est à la fois un portrait de personnages qui sont acteurs, et on va y revenir, des portraits très sensibles, j'insiste sur ce mot-là, et en même temps des portraits de poètes. Et donc, typiquement, par exemple, avec Mallarmé, vous nous invitez à considérer que la poésie nous propose plutôt de suggérer les choses plutôt que de les nommer. Donc il y a de la distance, par exemple. Il y a, chez Kundera, l'intelligence de la poésie qui nous fait réfléchir. Chez La Fontaine, vous nous dites qu'on a l'impression de se sentir plus intelligent ou en tout cas de le devenir. Donc il y a de la nuance. Parce que pour vous, la poésie, c'est ça, c'est mille facettes.
Oui, c'est absolument. En fait, la poésie apparaît dans notre univers commun, souvent, selon le cliché, comme une expression du chagrin, de la mélancolie, du repli sur soi. Et c'est vrai que la poésie est un terrain absolument prodigieux pour matérialiser ce que sont les parts les plus sombres, nos soleils noirs, comme dirait Nerval. Mais, en grand amateur de poésie que je suis, je sais aussi que la poésie est élan heureux, résistance, révolte, formidable outil de déclaration amoureuse, de déclaration amicale. Le spectre d'émotions que charrie la poésie est beaucoup, beaucoup plus large qu'on ne l'entend et qu'on ne l'attend. Par exemple, une chose me frappe, on n'imagine jamais à quel point la poésie peut être drôle, à quel point la poésie peut être traversée par le jeu, par l'humour. Je vais vous donner un exemple. On perçoit très fréquemment Baudelaire comme étant, comment dirais-je, un représentant tourmenté d'un grand romantisme existentiel tourné du côté du spleen. Et très clairement, Baudelaire l'est. Mais Baudelaire est capable parfois d'un humour absolument ravageur. Le début d'une charogne de Baudelaire, poème très connu. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant des poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre, plein d'exhalaisons. En fait, Baudelaire, dans ce poème, ricane. Il est d'une provocation très transgressive, qui est inadmissible pour son temps, et où il fait une comparaison entre quelque chose qui est en train de pourrir et l'acte érotique et le désir. Donc, vous voyez, en fait, quand on commence à lire la poésie avec, je dirais, un regard un peu curieux, on s'aperçoit que c'est en fait d'une diversité, et vous avez dit le mot, d'une nuance bien plus surprenante qu'on ne saurait l'imaginer.
Et de ce point de vue-là, c'est presque une nuance de peinture, puisque ce que vous nous amenez aussi à considérer, c'est l'ampleur de la poésie dans ce qu'il a d'artistique, y compris dans, vous avez parlé de nuances, les nuances de couleurs et de tonalités. Et donc là, vous parlez de Baudelaire, vous parlez aussi de Vuillon dans votre livre, dans lequel vous dites que non seulement on a des a priori sur la poésie en elle-même, mais on a des a priori sur les poètes eux-mêmes.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, très fréquemment, on se figure le poète comme un esprit hors sol. Vous savez, ce qui vient au cerveau, c'est la tour d'ivoire et puis l'homme ou la femme avec un encrier penché sur la feuille blanche. Et de fait, il y a pu avoir beaucoup de représentations, d'ailleurs même dans les arts, figurant le poète ainsi. Mais, vous l'avez dit, dans le Chat du jardinier, en fait, on va traverser, par l'intermédiaire des échanges entre Tali et Louis, les deux personnages principaux, on va traverser les biographies de quantité d'auteurs. Et on va se rendre compte que derrière des noms comme ceux d'Aimé Césaire, René Char, Louise Labbé, Gaspard Astampa, en fait, il y a quoi? Ou Villon, que vous citiez à l'instant, il y a quoi? Bah, il y a des résistants, il y a des prisonniers, il y a des aventuriers, il y a des criminels, il y a des fous, il y a des corps. En fait, s'intéresser aux poètes et aux poétesses, c'est constater d'abord que, eh bien, comme tout être humain, ce sont des corps qui traversent l'histoire. Des corps qui souffrent, des corps qui aiment, des corps qui désirent, qui sont désillusionnés, des corps qui parfois ont mal à la tête, au cœur ou à l'estomac ou aux dents, mais qui parfois aussi sont en phase d'exaltation totale, des corps qui caressent, des corps qui sont frappés, qui sont contrariés, des corps qui inventent. Ce sont des corps. Et donc, quand on a cette image un peu plus substantielle, un peu plus charnelle, un peu plus incarnée en tête, on comprend d'autant mieux que quand les poèmes nous racontent des choses de la vie, il ne s'agit pas simplement de figures de style pour briller sur les bancs de l'école. Non, ça nous parle au sens strict de notre monde, de notre condition et même de politique.
Oui, parce que je parlais de Villon. En fait, ce dont on se rend compte dans votre livre, c'est que la poésie peut aussi magnifier la violence ou être parfaitement associée à de la crapulerie. Villon, par exemple, vous nous racontez dans votre livre qu'il voulait être clerc de notaire, non pas par aspiration et par envie profonde, mais simplement pour éviter la punition extrême.
En fait, Villon voulait embrasser une carrière ecclésiastique en devenant clerc parce que, à l'époque, on est donc au XVe siècle, hein, aux alentours de 1450-1470, parce que, à l'époque, cela vous permettait d'avoir une mansuétude un peu plus large de la part des instances administratives et judiciaires. Et il se trouve qu'en effet, Villon a été fréquemment impliqué dans des histoires de bagarres et même dans des histoires de meurtres. Hein. Villon a tué dans sa vie. Et Villon a été condamné à mort. Hein. Il a non seulement été condamné à la prison, a fait de l'exil, a été gracié, mais il a été également condamné à mort. Il savait ce que c'était que d'être menacé par la sentence suprême. Et donc, quand vous avez ça en tête, c'est quand même tout à fait extraordinaire de lire, par exemple, sa Ballade des pendus. Alors, permettez-le, je vais le citer, même si c'est des vers du Moyen-Âge, ils sont extraordinaires. Et il faut bien entendre ce que c'est, en fait. Villon imagine des pendus qui s'adressent aux êtres humains qui vivent encore. Et ça donne ceci. « Frères humains qui après nous vivez, n'ayez le cœur contre nous endurci, car si pitié de nous autres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. » C'est un poème extraordinaire, parce qu'au fond, ce que raconte Villon à ce moment-là, c'est une sorte d'union potentielle, non seulement entre les êtres humains, mais entre les vivants et les morts, et mieux que cela, entre les vivants qui se croient vertueux et les morts qui ont été condamnés pour leur turpitude et leur vice. Donc c'est une grande leçon d'humanité qui dépasse simplement la sphère du vivant pour être quasiment d'ampleur métaphysique et transcendante. Très sincèrement, et ça en quelques vers, très sincèrement, vous voyez, quand on fait un peu l'effort de lire la poésie comme, j'espère, j'invite à le faire modestement dans le Chat du jardinier, la récompense peut être absolument immense.
Et il y a quelque chose d'assez intrigant dans votre livre, c'est le fait que, à la fois, vous nous racontez la vie de ces poètes et vous nous invitez à écouter leurs vers avec attention, mais en même temps, votre personnage principal, Louis, ce jardinier, dès le début du livre, vous nous indiquez que lui, ce qu'il aime particulièrement, c'est s'attacher aux vivants qui sont sans langage, c'est-à-dire la faune, la flore, son chat, les crapauds, son épagneul et les arbres.
Je suis sûr que les gens qui aiment les animaux, et j'espère que c'est le public le plus abondant, je suis sûr que les gens qui aiment les animaux comprendront tout de suite ce que je vais dire. Moi, je suis fou hein, des animaux. Pour moi, c'est vraiment une des grandes causes de ma vie. Et quand on aime les animaux, il y a quelque chose de révoltant, c'est qu'ils ne peuvent pas exprimer leur souffrance, ils ne peuvent pas désigner là où ils ont mal. Et c'est doublement révoltant. C'est révoltant parce que si on le savait, on pourrait rapidement se dire bah, « voilà comment je peux traiter la chose pour apaiser une douleur ». Et c'est révoltant parce que, au fond de nous autres êtres humains, nous savons que quand nous commençons à désigner la douleur, celle-ci se calme déjà un peu. Et ce n'est pas le cas avec les animaux. Et c'est pour ça que, très souvent, ceux qui adorent les chiens, les chats, les lapins, les oiseaux et toutes les autres bêtes développent une empathie très forte. C'est le cas dans Le chat du jardinier de Louis, qui voit son petit chat, qui est un pauvre chaton, qui est dit condamné, enfin, va falloir tourner les pages pour le savoir, hein, parce qu'il a une tumeur cancéreuse, et ça le rend malade, parce que, évidemment, ce chat ne peut pas manifester verbalement cette douleur. Quand, face au vivant, qui n'a pas les moyens de verbaliser la douleur, bien évidemment, les êtres empathiques, les êtres hypersensibles, éprouvent à la fois un sentiment de révolte et un sentiment d'attachement viscéral. On a envie d'entrer en fusion avec les arbres, avec les plantes, avec les brins d'herbe, avec les bêtes, afin tout simplement de leur donner un peu de notre énergie à nous et de prendre un peu de leur peine à eux.
Et c'est pour cette raison que vous avez décidé que la vétérinaire Julia aime Lévi-Strauss ?
Alors absolument, c'est drôle. Puisqu'on a un tout petit peu de temps, je vais vous raconter une petite anecdote, qui est plus une anecdote d'auteur à ce sujet. En fait, il y a en effet au début du livre un passage où la vétérinaire Julia explique à Louis, le jardinier, des considérations de Lévi-Strauss sur en fait une origine mythique de l'humanité où il n'y aurait pas de différence entre les humains et les bêtes. Et Lévi-Strauss explique, il dit là où il y a une cassure qui est une cassure désolante et terrible pour l'humanité, ça a été cette séparation et cette hiérarchisation entre les animaux et les êtres humains. Alors, première chose, évidemment, je ne sais pas si Lévi-Strauss a raison, et en plus, je suis totalement incompétent pour le dire, je suis pas anthropologue, je me suis contenté d'écouter ce que dit Lévi-Strauss. Et deuxième chose, je me suis vraiment contenté de l'écouter, parce que ça, figurez-vous, c'est quelque chose que j'avais vu dans une émission que Claude Lévi-Strauss fait avec Pivot, sur Apostrophe. Et donc j'étais tombé là-dessus et je me suis dit ah non mais c'est pas possible, c'est parfait, c'est exactement ce qu'une vétérinaire pourrait dire à Louis. Et dans l'écriture du chat du jardinier, je vous fais un petit behind the scene, dans l'écriture du chat du jardinier, ce passage est venu assez tard, je suis venu le surajouter vraiment à la toute fin de la rédaction et j'en étais très heureux, mais c'était une espèce de concours de circonstances en tombant sur cette excellente émission que je recommande à tout le monde où Lévi-Strauss parle avec Bernard Pivot sur Apostrophe.
Parce qu'il y a dans ce livre, plus encore que dans tout ce que vous avez écrit jusqu'ici, Thomas Schlesser, une sensation du vivant pleinement. C'est vraiment un livre sur les sens, sur nos sens en éveil. Alors vous l'avez dit, hein, le lien aux animaux, à la nature autour de nous, mais sur le ressenti. Parce que si on ne peut pas faire de définition de la poésie, vous l'avez dit vous-même, et on le voit bien dans votre livre, mais en même temps, s'il y avait un point commun à toute poésie, ce serait celui-là.
Oui, et si vous permettez, de mon côté, ça vient aussi de beaucoup de mon enfance et des origines provençales de ma famille. quand je dis origine, c'est plus que ça, puisque ma famille, mon père et ma mère, vivent encore donc dans l'arrière-pays varois, à côté de Salernes. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez, on va dire que la grande ville la plus proche, c'est Draguignan. Donc, c'est, si vous voulez, c'est les terres varoises, c'est-à-dire une Provence qui est très belle, qui était très préservée jusque dans les années 80, qui malheureusement aujourd'hui a un peu souffert de la modernisation et de la bétonisation. Et une Provence dans laquelle les sensations sont à profusion. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'éléments comme les intempéries, le vent, le mistral, les incendies. Moi, j'ai vécu des incendies quand j'étais enfant, des incendies qui venaient menacer véritablement ma maison, en particulier en 1983 et un autre en 1990. C'est aussi toute la présence des bêtes. Quand je dis des bêtes, des petites bêtes, les moustiques, les crapauds, les araignées, etc. etc. Et puis de matériaux, la minéralité, la présence des odeurs du bois, de l'humus, etc. etc. Donc c'est très nourri, ce livre, de ce qu'ont été toutes les sensations de mon enfance en Provence. Et il se trouve que la poésie étant, j'allais presque dire, ontologiquement connectée avec la nature, eh bien, elle se fait très souvent la chambre d'écho de tout cela. Alors, je vais raconter une petite histoire à ce sujet. L'une des premières figures mythologiques du poète, c'est qui ? C'est Orphée. Orphée avec sa lyre, et qui est Orphée ? Orphée, c'est un berger. Orphée, c'est un berger, et avec sa lyre, il est tellement inspirant pour le vivant qui l'entoure que même les arbres l'écoutent, même les animaux viennent l'écouter et l'entourent. Et donc, on a comme ça cette espèce de légende des origines que j'adore, où, au fond, la poésie et le vivant ne font qu'un, créer une chair du monde complètement harmonieuse et homogène. Évidemment, je n'ai pas la naïveté de penser que ça marche à chaque fois, mais j'aime bien cette idée. Et c'est évidemment ce que j'ai essayé de rendre à ma manière avec ce jardinier dans cette Provence, dans mon roman.
Et vous parlez de Rilke aussi à ce sujet dans votre livre, hein, à propos du fait de pouvoir donner une langue créatrice de nature et inversement quand même, de cette communication.
Absolument. Et alors, ce qui est incroyable, là aussi, c'est un peu légendaire. Je l'explique hein, dans le roman. J'essaye toujours d'apporter des nuances en expliquant ce qui relève de la légende et ce qui relève de la réalité. Mais Tali explique à Louis comment est mort Rilke. En réalité, ça a été une dégradation lente d'une triste maladie. Mais la légende veut que Rilke, en fait, soit mort en se piquant avec une rose. Et c'est vrai que, franchement, on ne peut pas imaginer pour un poète un symbole plus beau. Mourir en étant piqué avec une rose, c'est quand même pas mal. Rilke, c'est pas simple hein, comme poésie. C'est une poésie qui est très difficile à traduire, en plus. Mais c'est pareil, vous voyez, dans Le chat du jardinier, tout à la fois, il va y avoir des voies d'accès à la poésie assez simples, avec, par exemple, Jacques Prévert ou un chanteur comme Georges Brassens. Et ça va nous permettre d'avoir un marchepied vers des textes plus exigeants, comme Rilke, comme Hölderlin ou comme René Char. Et j'ai essayé, en effet, dans le livre, d'avoir un bon balancement entre ce type de littérature. Je ne suis absolument pas en train de dire que Georges Brassens sait aussi bien poétiquement que Rilke, mais c'est bon en revanche d'avoir ces équilibres-là, je crois, dans un roman qui se veut une initiation globale à la poésie.
Oui, mais d'ailleurs, vous parlez de musique, et dans votre livre, vous citez aussi Anne Sylvestre. Donc vous êtes aussi dans cette réflexion sur la musicalité de ce que porte la poésie.
Vous avez parfaitement raison. Alors, première chose, je pense que le texte d'Anne Sylvestre, Les gens qui doutent, est vraiment en soi un texte poétique, sinon majeur, du moins d'importance. Et évidemment, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que les passerelles entre poésie et musique sont innombrables, ne serait-ce que parce qu'aux origines de la poésie, la poésie était chantée. C'est ce qui explique qu'il y a eu cette transmission des grands récits légendaires, comme celui sumérien de Gilgamesh il y a 5000 ans, ou de l'Iliade et l'Odyssée. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que à la Renaissance, par exemple, la poésie, les sonnets étaient, là encore une fois, véhiculés sous forme chantée. Quand Louise Labbé ou Gaspara Stampa écrivent de la poésie, eh bien, ensuite, elles sont accompagnées par, parfois, leur propre sœur, et on entend cette poésie chantée. Bien évidemment, la poésie est elle-même intrinsèquement musicale. Verlaine le dit. De la musique avant toute chose. Et il enchaîne en disant « et pour cela préfère l'impair », c'est-à-dire le vers impair, le vers un peu bancal. Donc, il y a musique et poésie sont intrinsèquement liées. Maintenant, il y a une petite chose qu'il faut dire à notre public, c'est que quand la poésie est dite, déclamée, sans être musicalisée, elle conserve son expression ouverte. Le petit reproche qu'on peut faire à la musique, je suis un fou furieux de musique, hein, c'est pas du tout le problème, je suis pas en train de faire une hiérarchie entre les arts, mais le petit reproche qu'on peut faire à la musique quand elle met un poème en mélodie ou quand elle exalte une chanson, c'est qu'elle force certaines intentions et par conséquent, elle restreint un tout petit peu le sens qui, à la déclamation ou à la lecture, reste ouvert. Je vais vous donner un exemple. En fait, vous pouvez tout à fait, avec certains poèmes, leur donner une tonalité élégiaque, et donc leur produire un effet qui est celui de la tristesse et de la plainte. Et la musique va faire ça très très bien, et elle va toucher très vite votre cœur avec cela. Mais c'est parfois un peu dommage parce qu'on peut constater qu'un poème est plus ouvert que cela. Donc, exemple très connu. Le poème de Victor Hugo, « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. » C'est un poème qui commence comme un rendez-vous amoureux. Le génie du poème de Hugo, c'est qu'on a l'impression d'une légèreté et même d'une frivolité au départ, avant d'avoir la chute mortifère qui vous brise le cœur, en réalité, il va fleurir la tombe de sa fille. Et ça, si vous le mettez en musique, le risque que vous avez, c'est de tout de suite donner une coloration qui, quand elle passe simplement par la lecture ou la déclamation, n'est pas là, et par conséquent, conserve son ambivalence, sa polysémie, et donc, du coup, sa richesse.
Alors, est-ce que ça veut dire que, finalement, pour être à l'écoute d'une poésie, il faut oublier ses préjugés ?
C'est tout à fait certain, mais j'irai plus loin. J'irai que la poésie est ce qui vous permet d'oublier immédiatement vos préjugés sur le langage. Je reviens simplement sur mon propre parcours de mauvais élève. Quand j'étais en collège, au 6e, 5e, 4e... j'étais mal à l'aise avec mon corps, comme beaucoup d'adolescents, mal à l'aise avec mes modalités d'expression, et j'avais là toujours l'impression que le langage était quelque chose qui m'enfermait un petit peu. J'arrivais pas à me plier à la façon dont il fallait parler scolairement. Bon, et je tombe un jour, pas par l'école, hein, par le hasard. Je suis enfant de parents divorcés, je vivais avec ma mère, et puis chez mon père, il y a une bibliothèque, il n'y en avait pas chez ma mère, mais chez mon père, il y a une bibliothèque, et je tombe par hasard sur un Alcool de Guillaume Apollinaire. Je ne sais évidemment pas qui c'est. Je regarde, je lis, je n'y comprends strictement rien, mais je me dis, mais c'est fou! On a le droit de s'exprimer comme ça, c'est même dans un livre. On a le droit de commencer un livre en disant à la fin, puisque vous savez, Alcool d'Apollinaire, ça commence par « À la fin, tu es là de ce monde ancien, bergère au Tour Eiffel, le troupeau des Pombelles ce matin. » La première fois que je lis ça, je n'y comprends strictement rien, de même que je ne comprends pas quand Apollinaire écrit « Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. » Mais je me dis « Waouh ! On a le droit de ne pas mettre de ponctuation, on a le droit de raconter ce qu'on veut, la poésie, en fait, ça peut être des vers irréguliers. » Et j'ai le sentiment, j'ai la sensation, j'ai l'intuition de cette possibilité de s'émanciper par la poésie. Alors que les choses soient claires, je sais très bien ce que diront les professeurs qui m'écoutent, et ils auront totalement raison. En fait, Apollinaire, c'est extrêmement travaillé, extrêmement ciselé, extrêmement sophistiqué. Je le sais très bien. Apollinaire, c'est une leçon de rhétorique et de poétique. Il n'empêche que quand on le lit la première fois, et même après, ce qui domine, c'est ce grand souffle de liberté. Et par conséquent, la poésie, quand je la découvre la première fois, elle me murmure à l'oreille « autorise-toi ». Moi, Guillaume Apollinaire, qui suis auteur, je te dis « autorise-toi ». Tu peux t'autoriser. S'autoriser, j'adore cette expression parce que c'est au fond ça, être un auteur, c'est s'autoriser. Et à travers soi-même comme auteur, que toutes celles et tous ceux qui nous lisent se disent qu'eux aussi peuvent s'autoriser. Ben voilà exactement ce que j'ai appris avec Apollinaire. Donc ça fait voler en éclats tous les préjugés. Et alors si on a des préjugés sur la poésie en se disant que ça va être long, pénible, insupportable, etc. Non. La poésie peut être légère, elle peut être drôle, et surtout, elle est vraiment souvent un agent fortifiant. Excusez-moi, je précise cette expression. Il y a une histoire célèbre. Nelson Mandela avait pour poème préféré « Invictus » de William Ernst Henley, poète anglais. Alors, ce poème, il est très connu. J'en donne ma propre traduction, qui est très proche de l'original. Et qui dit « Si étroit soit le chemin, qu'on me juge, qu'on me blâme, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Et en fait, ça permettait à Nelson Mandela de tenir en prison. Et ce poème, quand il a été écrit, eh bien, William Ernst Henley était en fait lui-même atteint de tuberculose osseuse. Il avait été amputé pendant son adolescence d'une jambe. Il a été réamputé d'un pied à 25 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit ce poème. Hein, les fameux corps dans l'histoire, les corps qui résistent, les corps qui souffrent et qui résistent. Et c'est vrai que d'avoir ces lignes dans la tête, alors je ne dis pas que tout le monde est Nelson Mandela, hein, loin de là, mais ça permet d'avoir comme ça une sorte de force intérieure qui, en certaines circonstances, peut être tout à fait salutaire.
Alors, on le voit bien dans votre écriture, Thomas Schlesser, dans votre livre précédent et dans celui-ci en particulier, il y a quelque chose à la fois de l'enfance, de l'émerveillement, de la transmission, je le disais tout à l'heure, et vous venez de l'ajouter, de la liberté, de l'autorisation. Est-ce que, pour vous, la culture, les arts, avec un grand A, c'est une façon de mieux se connaître soi-même, comme en fait, de la façon la plus simple du monde, comme nulle part ailleurs?
C'est absolument évident. Maintenant, pour être tout à fait franc avec vous, sur le plan politique, du point de vue de moi, mes propres recherches, non pas comme romancier et comme romancier de la transmission, mais plus comme historien de l'art dans le domaine académique et universitaire, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le fait que les arts, la culture, pouvaient parfois se mettre au service du pire, de façon très simple, quand c'est de la propagande, ou de façon plus insidieuse, en maintenant des structures de domination, parfois malgré les artistes eux-mêmes. On va le dire très simplement, quand on pense à l'image de l'artiste comme grande puissance romantique ayant une vision, bah en fait, on voit l'art et les artistes comme une force aristocratique, donc comme une force de domination. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est mon sens de la nuance et je préfère toujours quand même le rappeler. Et puis là, on a un peu de temps, donc ça me permet de le dire davantage que quand j'ai 5 minutes à la radio, vous voyez. Je crois que c'est toujours très important de garder cette vision d'une profondeur historique pour ne pas être non plus les dupes écervelés et aveugles de ce que serait le bonheur à travers les arts. Il n'empêche, maintenant que j'ai dit ça et que j'ai pris mes précautions, bien évidemment, que ce que la civilisation produit de plus audacieux, de plus émouvant, de plus beau, de plus recherché, de plus riche en termes de signification, c'est toujours un excellent moyen d'aller chercher le meilleur de soi-même. Bien entendu qu'il faut continuer des entreprises de déconstruction de ce que sont les arts et la culture, c'est très important. En revanche, il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de conformisme qui voudrait voir devant chaque production de beauté du fascisme en puissance. Non, non. La beauté, c'est aussi parfois la beauté, et c'est merveilleux, et ça permet de mieux se connaître soi-même et de donner la meilleure version de soi-même.
Pourquoi vous précisez tout cela ? Parce qu'on est dans une période où c'est particulièrement important, en tant qu'historien de l'art.
Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de lignes de fracture intellectuelle sur le sujet. Et qu'en plus, moi, j'ai un parcours. Je viens de l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, j'ai considérablement travaillé ces questions-là, savoir ce qui se cache de mauvais derrière les arts, pour le dire de manière un peu caricaturale. Hein. Et au fur et à mesure que le temps passe, encore une fois, hein, sans vouloir dire que il s'agit de magnifier de façon naïve ce qu'est la production artistique, au fur et à mesure que le temps passe, je dois quand même constater que quand on fraye du côté de la poésie, de la peinture, de la sculpture, de la performance contemporaine, de la musique, etc., bon, ça produit des choses qui sont merveilleuses. Et que politiquement, c'est aussi important de le rappeler. Mais j'insiste, hein, y a beaucoup, beaucoup de lignes de fracture que le grand public ne voit pas forcément sur ces questions-là.
À quoi vous pensez, par exemple ?
Bon, la simple utilisation du mot beauté, de dire que quelque chose est beau, la simple utilisation du mot style peut être reprochée parce que ça peut être connoté. Ça peut être connoté, par exemple, du côté d'une vision élitiste des arts. Et ce sont des discussions ultra importantes. Je ne suis pas du tout en train de les balayer d'un revers de main. En revanche, je pense que ce n'est pas parce qu'on ne les balaye pas d'un revers de main qu'on est obligé de pencher immédiatement d'un côté ou d'un autre.
Il y a aussi dans la poésie de votre livre un élément très important, c'est celui du théâtre. D'ailleurs, Tali, le deuxième personnage principal de ce livre, fait de la mise en scène. Et on l'entend bien quand vous nous parlez de votre rapport aux arts d'une façon générale. Il y a cet aspect ludique et de la mise en scène. Et votre livre aussi, d'un point de vue très pratique, de toute façon, met en scène les poésies que vous citez.
Absolument. Vous avez raison. Merci de le souligner. Alors, ça vient chez moi du fait que je crois profondément à la dimension orale de la poésie. Donc, moi, je lis un poème par jour, au minimum. Et le poème, je le lis toujours à voix haute. Alors, si je suis tout seul, ce qui arrive fréquemment, je le lis en le verbalisant de manière un peu sonore. Et s'il y a quelqu'un, je le murmure ou je le dis à la personne. En tout cas, je lis à chaque fois à voix haute un poème par jour. La poésie, en fait, plus elle se déploie dans l'espace à travers la parole, plus elle prend sa consistance et son sens. Et ce n'est pas qu'un sens extérieur. Entendez-moi bien, je vais essayer d'être un peu subtil. En fait, pour qu'un poème résonne pleinement, il faut que vous l'incorporiez. Et pour l'incorporer, le fait de le dire et au fur et à mesure de le connaître par cœur, parce qu'on l'a dit beaucoup, c'est, comment vous dire, le poème finit par être spatialisé dans la bouche. En fait, il n'est même plus dans la tête, ça les acteurs connaissent ça par cœur, ce n'est plus dans la tête, vous ne faites plus appel à votre réflexe cérébral, pardonnez-moi, vous ne faites plus appel à votre réflexion cérébrale, vous faites appel à votre réflexe au niveau de la mâchoire. Il est matérialisé dans votre bouche et donc il est incorporé, il fait vraiment partie de votre être et il prend pleinement son ampleur et son sens. Donc, quand, comme vous le disiez, on théâtralise un poème, et en effet, c'est le cas dans Le chat du jardinier, où en fait, Tali invite toujours Louis à projeter le poème en le disant aux arbres, aux animaux, aux paysages. En fait, les poèmes sont à chaque fois dits à la nature. De façon assez paradoxale, cette projection permet de l'incorporer, et l'incorporer, eh bien, ça devient vraiment une partie constitutive de votre être. D'ailleurs, je suis sûr que plein de gens vont se reconnaître là-dedans. Bien sûr, tout le monde ne connaît pas un poème par cœur, mais de nombreuses personnes en connaissent au moins un ou deux, ou au moins une strophe. Et quand ce n'est pas La cigale et la fourmi que tout le monde connaît, on est très fier et très heureux de ce poème qu'on connaît par cœur. Et on aime le dire et on aime le partager, et c'est vraiment une petite part de notre être. Et donc, mon modeste conseil, c'est ce qu'on trouve dans Le chat du jardinier, lisez un poème par jour, verbalisez-le, et peut-être pendant un an, relisez à voix haute le même poème, vous finirez par le connaître par cœur, et ça sera un enrichissement de votre personnalité.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de lire un poème par jour ?
En fait, je dirais pas que ça sauve mes journées, parce qu'il y a des journées qui sont vraiment complètement foutues. Il y a des journées irrécupérables. Je suis comme tout le monde, j'ai envie qu'ils sont malheureusement. Mais un poème par jour, c'est il y a la journée n'est jamais complètement gâchée. Il y a un pouvoir un peu de consolatoire. Et puis quel est l'avantage de la poésie? On va le dire, c'est que c'est une forme courte. C'est une forme qui peut même être très courte. Vous avez des poèmes d'Apollinaire ou de René Char qui tiennent en un vers. Hein, des haïkus, c'est juste quelques mots. Et un sonnet, c'est 14 vers. Vous le lisez en 1 minute 30. Vous avez des poèmes qui peuvent être plus longs. Si vous prenez une épopée, bah, évidemment, là, ça peut... Mais c'est une forme courte. C'est une forme ramassée. Donc, vous pouvez la faire vôtre en très peu de temps. Et ça, c'est quand même très, très agréable.
Dans votre livre, vous dites aussi que raconter un rêve, c'est déjà faire poésie. Il y a une part de nous, individuellement, qui ignore cet aspect accessible.
Oui, oui. Alors, là, vous mentionnez quelque chose qui est important, c'est on a une voie d'accès assez rapide à la parole poétique. On peut nous-mêmes faire de la poésie assez rapidement. Il suffit, en effet, ne serait-ce que de mettre un rêve par écrit, et ça devient un petit poème en prose assez savoureux. D'ailleurs, il y a dans l'histoire de la littérature énormément de poèmes qui parlent de rêves. Le plus connu, c'est sans doute Mon rêve familier de Paul Verlaine. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Mais on peut penser à toute la littérature surréaliste. Par exemple, Robert Desnos qui dit « J'ai tant rêvé de toi que j'ai perdu ta réalité. J'ai tant parlé, marché, couché avec ton fantôme qu'il ne me reste plus peut-être et pourtant qu'à être fantôme parmi les fantômes. Donc ça, c'est, si vous voulez, la voie d'accès à la création poétique. Néanmoins, je voudrais dire une chose qui me tient à cœur et où je vais peut-être décevoir, j'en sais rien, mais surprendre une partie des lecteurs et des lectrices. Le chat du jardinier n'est pas une invitation à écrire de la poésie. En fait, il y a beaucoup de poètes en activité, beaucoup de très bons poètes. Mon vœu, mon engagement, le côté militant de ce livre, c'est en fait de créer une scène d'écoute de la poésie. Nous ne manquons pas de plumes pour en écrire. Nous manquons en revanche de curiosité pour être des récepteurs de la parole poétique. Donc, le chat du jardinier, c'est l'espoir que celles et ceux qui refermeront le livre sauront se montrer plus attentifs, plus curieux, j'allais dire plus disponibles pour la parole poétique. Ce que j'espère, c'est qu'ils se précipiteront ensuite à la librairie Mola pour acheter du Marina Tsvetaeva, pour acheter du Debord Valmore, pour acheter du Aimé Césaire, ou pour acheter même des poètes plus contemporains. Je cite Jacques Roubaud dans Le chat du jardinier. Je ne dis pas du tout que je vais y arriver, évidemment, je n'ai absolument pas cette prétention-là. Mais si vous voulez, Les yeux de Mona m'a permis d'avoir une petite lucarne. Je sais très bien que j'ai un livre qui est plus facilement accueilli que si j'avais fait un roman qui s'était vendu à 500 ou 1000 exemplaires, ce qui est déjà d'ailleurs pas si mal. Les yeux de Mona, ça a été un succès. Donc, je profite aussi de ce succès pour que, à travers Le chat du jardinier, qui est, j'espère intrinsèquement par ailleurs un excellent roman, mais pour que, à travers Le chat du jardinier, il y ait les oreilles ouvertes sur quantité de poètes à travers le monde, et qu'après ça, eh bien, y ait plein de lecteurs qui se mettent à fouiller dans leur bibliothèque, dans les librairies ou auprès de leurs proches et trouvent. Et soit disponible et soit heureux d'entendre la parole poétique.
Et à cet endroit-là, c'est aussi quelque part un engagement assez politique de votre part, y compris sur le fait de pouvoir s'intéresser à la poésie, à la lecture. Il y a un autre passage qui est important dans votre livre, c'est celui de la calligraphie. Quand vous parlez de Pouchkine ou de Musset, vous nous invitez alors quoi ? À partager définitivement votre appétence pour le visuel, la beauté du mouvement et du geste ?
Vous avez raison. Vous savez, ça a été très émouvant pour moi, pour le lancement du chat du jardinier, avec les éditions Albin Michel, on a eu l'occasion d'être à la Bibliothèque nationale et on a pu sortir des textes manuscrits et en particulier Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, les trois seuls feuillets qu'on ait d'Une saison en enfer et qui sont à la Bibliothèque nationale. Alors, il se trouve que moi, je suis un fou d'archives de manière générale en tant qu'historien, historien de l'art. J'adore les archives et j'adore cette idée que la poésie, avant d'être simplement une sorte d'immatérialité flottante, c'est de l'encre sur du papier. C'est de l'encre sur du papier. Avec même la fragilité, si vous voulez, de cette matérialité. Je voudrais vous raconter une histoire qui est d'ailleurs dans le Chat du jardinier à ce sujet. En Union soviétique, il y avait une censure redoutable à l'égard des poètes et en particulier à l'égard d'un des plus grands d'entre eux, qui est Ossip Mandelstam. Mandelstam, en fait, avait fait un poème très critique sur Staline, ce qui lui avait valu de la prison. Ensuite, il a été condamné à partir en camp et puis il est mort. Et toute la poésie de Mandelstam, qui était une poésie donc évidemment manuscrite et publiée, a été entièrement censurée, supprimée, annihilée par l'Union soviétique. Par conséquent, qu'a fait sa veuve, Nadezhda Mandelstam? Elle a fait exactement ce qu'on trouve dans Fahrenheit 451 de Bradbury. Elle a appris par cœur toute la poésie de son mari, pour ensuite la restituer, une fois que l'étau du réalisme socialiste s'était un peu desserré. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça signifie. Elle a mis, c'est une femme extraordinaire, hein, Nadezhda Mandelstam, elle a mis son mari dans sa tête. Parce que la fragilité de ses feuillets et de ses livres, elle a compris que bien, tout pourrait disparaître, et donc elle a tout mis dans sa tête pour ensuite le restituer. Donc vous voyez, être attentif à cette écriture fragile sur du papier, vous avez raison, c'est présent dans le Chat du jardinier, c'est une façon de dire nous sommes les heureux dépositaires d'un héritage littéraire tellement divers et tellement beau, émouvant, et souvent le fruit de gens très courageux. Ayons conscience de la vulnérabilité de tout cela.
Et vous, pourquoi avez-vous autant d'auteurs, de peintres, de poètes en mémoire?
Alors, pour deux raisons, pour trois raisons. La première raison, c'est qu'en ce qui concerne la poésie, c'est qu'en fait, comme moi, j'y accède au moment de l'adolescence et que je la dis beaucoup, quand j'avais pas ma manette de jeux vidéo le mercredi après-midi, je disais Desnos, Apollinaire ou Aimé Césaire. Finalement, à force de le dire, c'est resté en moi, surtout qu'il y a la plasticité du cerveau quand on a de 13-15 ans. Bon. Donc, ils sont en moi parce que je les ai dit et donc je ne les ai pas véritablement appris par cœur. Ils sont entrés en moi. Et en plus d'une façon existentielle, parce que quand vous êtes adolescent, tout est très très intense. En ce qui concerne la peinture, c'est différent, c'est que c'est mon métier. Je suis historien de l'art, donc les œuvres du monde entier, enfin les œuvres du monde entier, pas du tout, c'est horriblement prétentieux ce que je dis, mais les œuvres que j'ai l'occasion de croiser par mon métier, que j'adore par ailleurs ou qui m'intéressent. Il peut y avoir des œuvres que je n'aime pas, mais qui m'intéressent beaucoup. Je suis pas sûr d'aimer beaucoup Chagall, mais Chagall m'intéresse immensément, vous voyez, par exemple. Évidemment, ça ce serait un peu inquiétant si jamais je les avais pas dans la tête. La troisième chose, alors plus personnelle, c'est que, comme dirait l'autre, les morts sont parmi les vivants. Moi, j'ai en moi une grande spiritualité et en fait, je vis avec les vivants pleinement. J'adore les êtres humains, c'est ma faiblesse, je les adore. même dans leurs moments où ils sont insupportables, je les adore. Mais j'aime aussi les morts. Les morts sont comme des fantômes qui sont en permanence avec moi. Et donc, dans Les yeux de Mona ou dans Le chat du jardinier, il y a à la fois les personnages et eux-mêmes, ils sont traversés par quantité de défunts, mais qui sont avec eux. Et donc, c'est comme un grand théâtre de personnages secondaires qui les accompagne et qui accompagne le lecteur, de sorte que voilà, ce sont des romans qui sont assez curieux, parce que il y a tout à la fois les arcs narratifs avec les personnages de chair, et puis il y a les arcs narratifs beaucoup plus éclatés, mais avec aussi pas mal de, en fait, de d'échos cachés, les arcs narratifs de Guillaume Apollinaire, Frida Kahlo ou Paul Verlaine.
Pourquoi vous dites c'est ma faiblesse d'aimer les gens?
Et parce que je sais qu'il est de bon ton de dire que quand on voit les êtres humains, ils sont horribles, et puis le monde est devenu horrible, et puis c'était mieux avant, etc. etc. Ça peut m'arriver de penser cela aussi. Mais quand je suis tout seul, dès lors que je suis entouré, dès lors que je dis bonjour à quelqu'un, dans le regard de l'autre, je sais pas pourquoi, c'est très naïf ce que je dis, mais... dans le regard de l'autre, dans la voix de l'autre, là, de parler avec vous, même si on est à distance et tout, ça me tout de suite, j'ai une espèce d'énorme confiance. C'est curieux. Et je sais pas, peut-être parce que je vais vous dire un truc très personnel, mais j'ai été un gamin aimé. Genre, y a pas de problème là-dessus. J'ai une famille aimante. Mais j'étais quand même un gamin un peu seul, un peu dans. Voilà, qui a très vite développé une forme de petite fibre mélancolique dès l'enfance et l'adolescence, tout en étant entouré. Et ce que je peux dire, c'est qu'en revanche, dès que la solitude se rompait et qu'il y avait un peu d'étincelles avec les copains, les copines, les cousins, les cousines, et puis les parents, même si je ne voyais pas beaucoup mes parents, J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure et surtout une très grande exaltation. Ça me fait toujours un peu ça aujourd'hui. Ça me le fait aussi beaucoup avec les animaux. Hein. Dès que je vois des bestioles, j'ai envie comme ça de m'en emparer, de faire la fête avec elles. Savez, excusez-moi, je dis juste un truc à ce sujet. J'aimais pas lire quand j'étais gamin. Et le premier livre un peu dur que je lis, c'est... Le Lion de Joseph Kessel, et il y a une dernière phrase qui est fabuleuse dans Le Lion, que j'avais du mal à lire, mais alors j'avais adoré la dernière phrase, c'est « Et les bêtes dansaient ». J'adore cette image. On s'imagine comme ça dans la savane. Il y a la panthère qui fait la rumba, j'adore. Et ça m'a beaucoup marqué, ça, et quand je vois les animaux, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, que j'ai l'impression que toutes les bêtes dansent autour de moi, j'adore ça.
Donc on l'aura bien compris quand même, vos deux textes, vos textes en général, en fait, sont vraiment des textes de partage avec une certaine joie. La dernière question que je voudrais vous poser, Thomas Schlesser, est la suivante. Comment est-ce que vous imaginez, puisque vous êtes un historien d'art, puisque vous êtes quelqu'un qui est porté sur l'attention visuelle aussi, et puis à la sonorité des mots, comment vous imaginez dans votre cerveau le rangement de votre mémoire ?
Ah, c'est une question passionnante. Vous savez que au Moyen-Âge, il y avait ces représentations et ces jeux mentaux où c'était des tiroirs et où ça permettait, alors qu'on n'avait pas les outils d'aujourd'hui, de faire des exercices qui permettaient d'accumuler beaucoup, beaucoup de mémoire. Donc, comment est-ce que moi je me figure la chose ? Je me figure la chose sous forme très rhizomique, hein, plutôt sous une forme quasiment sous forme très très naturelle, de linéaments, de faisceaux, etc., etc. Pour autant, je dois dire que je suis de plus en plus sensible à ce que dit Guillaume Apollinaire sur la question de la mémoire, et je me reconnais quand même aussi là-dedans, une mémoire qui est à la fois une mémoire cérébrale, rationnelle, mais aussi une mémoire traversée par les émotions et par l'ivresse. Et Apollinaire dit « Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez divagué dans une onde mauvaise à boire, avons-nous assez navigué ?» De la belle aube au triste soir.
Fantastique mot de la fin. Merci beaucoup, Thomas Schlesser.